retour sur Arrakis cette semaine avec un épisode à nouveau consacré à Dune, deuxième partie, dans lequel nous reviendrons, spoiler à la clé, sur tout le génie de ce nouveau film événement. Séance tenante saison 3, épisode 10, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Nous sommes, comme on vous l'avait promis la semaine dernière, de retour sur Arrakis. C'est d'ailleurs notre envoyé spécial qui est parti, je crois, au sud de la planète et de retour cette semaine. Gaël, bonjour.
Salut.
Salut à tous.
Comment ça va?
Bah écoute, j'ai chopé un rhume sur Arrakis, mais ça va.
Ça devrait le faire.
Ouais, ça devrait le faire.
Parfait. Autour de la table également, Robin, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et bonjour Lisa.
Salut Alexis.
Cette semaine, nous allons parler donc largement à nouveau de Dune, deuxième partie, le grand film événement de ce début d'année. Spoiler à la clé, comme je disais en intro, puisque la semaine dernière, nous avons été, je crois, assez...
C'était parfait.
Vous avez vraiment...
Non, Robin, moi, je peux me permettre de dire c'était parfait,
non,
parce
mais
que
ce qui
j'étais
parfait,
pas là.
C'est le fait qu'il n'ait absolument pas divulgué le moindre élément pouvant aller à l'encontre de ma découverte de Dieu.
Dieu sait que c'était compliqué. C'est-à-dire que quand même, avec Lisa, on a dû
on se regardait dans les yeux comme ça. Je sais de quoi tu parles.
On a dû peser chaque mot, chaque virgule pour ne rien dire.
Aujourd'hui, pendant que Robin nous menaçait.
C'est ça. Il avait une arme à sa disposition. Mais bien sûr, comme c'est un format radiophonique, vous ne l'avez pas vu. En tout cas, tu l'as vu le film?
Ça y est, on est bon.
Tu as vu le film, Gaël?
Yes.
Lisa, tu as toujours vu le film?
J'ai toujours vu le film.
Et moi, je l'ai même revu.
Et oui, wow.
Bref, donc, comme vous l'avez compris, largement d'une deuxième partie avec des spoils, on vous préviendra à partir du moment où on commencera à bien spoiler comme il faut. Dans cet épisode, on reviendra également sur une des nouveautés à l'affiche cette semaine, c'est La Salle des Profs, le film qui représentera l'Allemagne à la prochaine cérémonie des Oscars et qui est également notre label L'Autre Regard. Mais avant de parler de Dune, deuxième partie, et de La Salle des Profs, un petit mot sur les résultats des Césars, puisque la semaine dernière, nous étions un épisode déjà consacré à 100% à Dune, deuxième partie, donc nous n'avions pas pris le temps d'aborder cette 49e cérémonie des Césars. Un petit mot sur ces récompenses, si vous êtes d'accord?
Bien sûr, mais un petit mot... Je pense que
tout petit
ou pas, mais non, mais la chose à retenir, je pense, de ces Césars, c'est quand même la reconnaissance par les professionnels du cinéma français de ce qu'on peut appeler, même si c'est un petit peu vague, le cinéma de genre. Et ça, je trouve que la consécration du règne animal, notamment, va un peu dans ce sens.
Ah, Gaël Godeline de la tête, qu'est-ce qui se passe, Gaël?
Moi, j'ai aimé la cérémonie. Je trouve que les prix, le palmarès est au fond était aussi attendu que légitime. Je regrette.
Très rapidement, 6 Césars pour Anatomie d'une chute, les prix les plus
les
prestigieux
prix
avec
voilà.
Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, voilà. Meilleur acteur dans un second, le meilleur scénario, meilleur montage. Et Le Règne Animal, 5 Césars avec meilleur costume, son, effet visuel, musique et photographie.
J'ai un tout petit regret sur le fait que Le Règne Animal n'ait pas eu un des prix majeurs.
C'est vraiment.
Et quand tu parles de reconnaissance, tu as raison, parce que de toute façon, donner la photographie, le prix de la photographie à David Caillet, c'était d'abord, ça a été un très beau moment d'émotion qui n'a peut-être pas été assez souligné dans les comptes rendus. Mais je trouve que. Et c'était non seulement un beau moment d'émotion et un prix symbolique. Parce que c'est aussi d'une certaine manière la famille qui est la famille au sens concret, mais aussi au sens symbolique de Caillet qui est récompensée. Je trouve un tout petit peu, enfin moi personnellement, je trouve un tout petit peu dommage qu'il n'ait pas eu soit le meilleur réal, soit
film,
le meilleur film. Mais bon, c'était sans doute pas le moment, quoi. Mais voilà.
Non, c'est pas forcément le moment quand t'as Justine Triet en face. Je trouve que, ben, tu vois, autant Robin souligne peut-être la victoire du cinéma de genre, même si, je suis d'accord avec toi Gaël, il a finalement remporté les prix techniques, qui le méritent, hein, vraiment. Mais quand t'as une écriture comme ça, je trouve que c'est légitime et normal, en fait, de récompenser Justine Triet, qui quand même devient juste la seconde réalisatrice dans cette catégorie. Je trouve que quand même, il y a un... Et puis même, de ce que la cérémonie disait sur la place des femmes, tu as aussi les filles d'Olpha qui est récompensée.
Non, mais...
On a évidemment l'intervention de Judith Godrèche, enfin... Je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de la représentation, pas du cinéma de genre, mais des femmes dans le cinéma qui a été quand même assez saluée. Je trouve ça bien.
T'as vu, j'ai commencé à te couper avant de me rendre compte.
compte qu'en fait, il fallait surtout pas faire ça. C'était pas le moment.
Littéralement, il a pris son playlist.
Pas du tout, pas du tout.
Non, je trouve ça hyper intéressant. C'est effectivement, c'était l'enjeu de la soirée.
C'est ça.
Et il a été rempli et je pense qu'il faut tous s'en satisfaire. Je trouve, d'un point de vue, encore une fois, symbolique, je trouve ça juste dommage. Et ça tient, en fait, ça tient même au système des Césars français. C'est-à-dire que le fait que quand on donne le prix du meilleur film, on ne le donne pas seulement aux prods comme un Oscar, mais on le donne aux prods et aux réals, en fait qu'on aurait pu filer, par exemple, prix du meilleur film au règne animal et meilleure réalisatrice à Justine Triet.
Mais est-ce qu'au final il n'y a pas quelque chose de naturel quand même dans ce sacre ultime d'Anatomie d'une chute?
Moi je vote pas au César, mais j'imagine que c'était impossible. Mais j'imagine que c'était impossible de faire autrement quand on était face à sa boîte et qu'on se disait ok bon bah c'est le meilleur film et meilleur réal, il faut que ce soit elle. Je pense qu'il y avait un truc logique par rapport à l'époque, par rapport à ce qu'est le film aussi, parce que c'est vraiment un très grand film. Enfin, il y a la question mérite même pas d'être posée. Mais voilà, c'est mon seul petit regret. Et je te dis, c'est pour ça quand tu dis triomphe du genre,
oui,
etc.
Moi, j'aurais aimé que Règne Animal, peut-être, quoique il y a Raphaël Quenard aussi, mais Révélation Masculine pour Paul Kircher aussi.
Il était super.
Même si j'adore Raphaël Quenard et que c'est vraiment très mérité hein, pour le coup. Mais c'est vrai que peut-être il aurait pu aussi le ramener là-dedans.
Mais je trouve que ce soit dans la qualité des films et dans le palmarès, je trouve que c'est vraiment une cérémonie qui est impeccable, quoi. Ouais. Où il y avait vraiment, il y a rien à dire.
Le procès Goldman qui est reparti avec César du meilleur acteur qu'on avait reçu dans Séance Tenante. On ne peut que vous inviter à aller réécouter ce super épisode pour Harry et Vorsalter et Simple comme Sylvain aussi qui était passé dans le podcast avec Monia Chokri qui a remporté la statuette du meilleur film étranger.
Ça c'est sympa.
Dans une catégorie où était également nommé et présent dans la salle Christopher Nolan pour
elle s'est d'ailleurs excusée, quand elle remporte son prix.
Alors qu'elle mérite 100% son prix, mais en même temps, il y a ce truc de littéralement au premier rang en face de toi, t'as le réalisateur de Oppenheimer qui te regarde. Bref.
Heureusement qu'elle n'est pas aux Oscars, du coup. Parce que franchement.
Oui. La catégorie meilleur film. Et c'est l'heure de revenir sur Arrakis. Comme on vous le disait en début d'épisode, on va largement spoiler et revenir sur tous les moindres détails de ce deuxième opus. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, on se retrouve dans un prochain épisode. Mais si vous avez envie, comme nous, de revenir sur ce très grand film qui est sorti la semaine dernière au cinéma, d'une deuxième partie, où on va revenir donc sur chaque scène, on va décortiquer plan par plan. Cet épisode va durer 4 heures. Eh bien, restez avec nous. D'une deuxième partie, c'est un film réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler et Javier Bardem. Entre autres, c'est notre label coup de cœur et c'est un film à découvrir chez Pathé, en IMAX, en KDX, en Dolby Cinéma et en ScreenX.
Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans nombre d'entre eux, nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche.
Une deuxième partie. La semaine dernière, on a largement donné notre avis avec Lisa sur ce film. On va bien sûr, t'inquiète pas Lisa, participer.
On va
encore dire à quel point on a kiffé, ça y a aucun problème.
Non, c'est Robin.
J'aimerais bien laisser la parole pour commencer à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'avaient pas encore vu l'épisode. Le film en question, je m'y perds, je m'en mêle les pinceaux. Bref, Robin, Gaël, qu'avez-vous pensé de ce d'une deuxième partie? Est-ce que l'attente était justifié?
Le pari est totalement remporté de la part de Denis Villeneuve. Je trouve qu'il arrive à chaque nouveau film, il arrive à la fois à garder ses propres thématiques et ses obsessions de cinéaste, que ce soit dans le fond ou la forme, tout en élevant à chaque fois, je trouve, le niveau en fait de son cinéma, en allant plus loin dans ce qu'il arrive à proposer. Et ça, j'avais déjà eu cette sensation en faisant Premier Contact, Blade Runner 2049, Dune. Là, Dune, deuxième partie, s'ajoute un peu à cette liste et vient à nouveau proposer une filmographie dense, complexe et riche. Et le film en lui-même donne ce que la fin du premier promettait. Donc on est vraiment dans la continuité du premier. Je trouve quand même les films très différents entre eux, même si on a la même ambiance, on a quand même le même souffle. Mais j'ai même encore un peu du mal à m'expliquer pourquoi j'y vois une différence.
Plus noir, je pense.
Dans cette psychanalyse commune, de revenir là-dessus.
Non, mais peut-être en un mot, le premier avait cette tension constante en sachant que forcément, à un moment donné, ça allait déraper. Donc on avait vraiment ces personnages qui étaient dans le, une sorte d'attente par rapport à ce qu'ils vivaient, alors que là, comme on a pu un peu l'évoquer avant, les personnages prennent vraiment le devant pour aller créer eux-mêmes l'action et pas juste la subir. C'est peut-être ça qui ajoute un peu une différence dans la façon de construire les personnages et de les suivre. Mais oui, j'ai vraiment adoré. Donc comme c'est bien, on va pouvoir raconter les détails, mais je trouve la dernière heure absolument incroyable. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi pris dans un moment et même à voir à quel point Denis Villeneuve ne s'empêche jamais d'aller dans la direction qu'il souhaite. Et vraiment, c'est un très grand spectacle et c'est un très beau spectacle.
Gaël,
Tu dis un truc que je trouve très juste sur les personnages. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment emballé, mais on y reviendra, j'imagine, mais c'est, je trouve que les personnages se reconstruisent, se reconfigurent par rapport au premier. Et ça, c'est assez génial en termes de narration, et c'est encore plus génial parce qu'ils sont confiés à des acteurs qui sont d'abord déments en tant que tel, et en plus superbement dirigé. Moi, je trouve le film m'a vraiment surpris. C'est ce qui me manquait sans doute un tout petit peu dans le premier film, c'est l'incarnation. Parce que j'avais l'impression que c'était une démonstration du génie visuel de Villeneuve, le premier. Et je trouve que là, il y a, dans celui-là, je trouve que la manière dont les personnages jouent leur rôle, la manière dont, au sein même du récit, les personnages se construisent, se déconstruisent, se reconfigurent, c'est complètement fou. J'imagine qu'on parlera de la construction du Messie qui est au cœur de celui-là,
qui est
extraordinaire.
Et peut-être là,
extraordinaire.
C'est pas la meilleure performance de Timothée Chalamet de sa carrière.
Moi là, pour l'instant,
je suis impressionné de voir à quel point quelqu'un qui était déjà charismatique arrive à élever son jeu.
C'est incroyable.
Au sein même
incroyable.
Du film. Incroyable. Lorsque le tournant arrive, il offre un nouveau visage que je trouve flamboyant.
Je suis absolument d'accord. Et sinon, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup plus en voyant le film, c'est vraiment le j'ai eu l'impression, en fait je regardais Dune en pensant à Nolan, parce que j'ai revu Oppenheimer récemment, et je me disais que c'est quand même aujourd'hui les deux grands auteurs au sein du système de blockbuster, et je me demandais si aujourd'hui je préférais pas Denis Villeneuve, en fait, parce qu'il y a une forme d'humilité dans son cinéma, de rester collé à ses sujets, de rester collé, même si tu l'as très bien dit, c'est un auteur avec des thématiques qui reviennent constamment de la politique, le devoir des femmes, enfin, il y a vraiment des thématiques qui sont propres à Villeneuve, et en même temps, il n'est jamais au-dessus de son sujet. J'ai l'impression que Nolan, aujourd'hui, surplombe constamment ses films, constamment ses sujets, constamment, voilà, qu'il est dans un truc presque méta et presque très le démiurge. Villeneuve, au contraire, me semble être toujours à la bonne hauteur par rapport à, en tant que cinéaste, à la bonne hauteur pour faire ses films, quoi. Et il ne perd jamais ses spectateurs, et il réussit toujours à concilier le truc entre le sentiment, l'intelligence et en même temps la clarté de son propos. Et moi, je trouve que c'est assez dément au sein de l'industrie.
Que dire de plus ?
Bah, l'épisode est fini là.
L'épisode est terminé. Sans le moindre spoil au final.
On
avait pas besoin.
J'ai quand même parlé du Messi.
Mais si, mais le but c'est de spoiler. Là.
Oui, mais tu vois, c'est vrai qu'on se retient encore un peu.
Oui, alors que vraiment là, il y a chauffe, aucun... là. Un bon diesel, je vois ça. Lisa.
Moi je voulais revenir sur ce que Robin avait dit au début en disant que effectivement il y a une sorte de continuité et de progression de Villeneuve dans son cinéma entre peut-être Premier Contact, Blade Runner et maintenant Dune. Je trouve même qu'il y a un changement même d'échelle juste entre Dune 1 et Dune 2 finalement, dans le sens où t'as l'impression que, enfin c'est pas juste une impression, c'est Denis Villeneuve, il a vraiment compris qu'il avait affaire à une fresque cinématographique, à une saga cinématographique, à une saga littéraire à la base. Je pense qu'il y a quelque chose dans son côté artistique, dans le metteur en scène qu'il est, où il a compris le défi que c'est en fait de s'attaquer à Dune, qui était, bon, évidemment, on va pas le répéter mille fois, l'œuvre inadaptable. Je trouve qu'il y a quelque chose dans sa mise en scène, en fait, mais ça on l'a déjà dit la semaine dernière aussi, c'est... Il y a à la fois ce dépassement du premier épisode et cette continuité-là, en fait, je trouve. Et c'est très difficile, quand tu t'attaques à une suite, de faire ces deux-là.
J'ai vraiment ressenti ce que je ressens encore actuellement quand je vois La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours.
C'est ça.
Exactement. Avec la communauté de l'anneau, où c'est vraiment un petit groupe qui part à l'aventure et qui se balade dans les mines de la Moria, dans la forêt. Ils sont sept, et voilà. Et les deux tours, où là, on a vraiment deux peuples qui s'affrontent avec des armées gigantesques.
J'ai avec vraiment... des enjeux politiques.
Exactement. J'ai vraiment ce... Et les personnages qui doivent se transcender par rapport à ça. J'ai un peu le même ressenti quand je vois le premier Dune et le deuxième, où on a quelque chose de très intime, même si on sait, dans le premier, que l'intime vit dans le gigantesque, parce qu'on a beaucoup de choses autour. Mmh. Et là, dans le deuxième, bah, c'est l'infini qui rattrape l'infini, quoi. C'est un peu vague, mais...
Ce qui est fascinant aussi, la différence entre les deux films, c'est aussi le changement du rapport de force. Le changement du rapport de force avec cette rébellion qui va prendre énormément de place dans ce deuxième opus pour aller justement totalement contrer les Harkonnen qui ont pris possession de la planète.
Qui paraissait d'ailleurs imbattable dans le premier.
Qui avait un statut à la fin du premier opus. Je pense notamment au personnage de Dev Bautista, cette espèce de monstre d'armoire à glace.
La bête.
De bête ultime, comme c'était le boss final un petit peu de cet univers-là et de cette famille-là. Et puis au final, on se rend compte qu'il tourne au ridicule.
Oui, il est complètement dépassé.
Il tourne au ridicule. Il est totalement dépassé par les événements. Il est remplacé par le personnage de Sean Butler qui vient le rattraper. Et ce changement de rapport de force, je pense qu'il est lié aussi au changement de couleur qu'on a du film et au changement d'ambiance globale. Et ça rend l'expérience, je trouve, de ce deuxième partie absolument prenante. Parce que forcément, c'est un très très grand spectacle visuel. C'est un grand spectacle de cinéma, de divertissement. C'est beau, les costumes, la musique, tout ça, c'est absolument fou. Mais et tu parlais tout à l'heure, Gaël, de la direction d'acteur qui est extraordinaire, qui est magistral, parce que le casting est merveilleux, parce que Denis Villeneuve, on a l'impression qu'il a peut-être même travaillé sur lui-même, justement, sur sa façon de diriger ses acteurs et sa façon de placer ses pions un peu sur l'échiquier de son film pour raconter du mieux l'histoire. Mais il y a aussi un truc sur les enjeux, en fait, tout simplement. Les enjeux interplanétaire qu'on va avoir dans ce film et le changement de comportement, de caractère de tous ces personnages qui vont évoluer. Il n'y en a quasiment aucun qui est identique au début, minute 1 et la dernière minute du film. Et on a presque 3 heures de film où on s'embarque avec eux et on va vraiment suivre la progression de ces personnages parce que le film prend son temps et en même temps on ne s'ennuie jamais parce que le rythme est ultra efficace.
Avec ce truc qui est extraordinairement politique. C'est-à-dire qu'on parlait de la construction du Messie tout à l'heure, et religieux. On parlait de la construction du Messie tout à l'heure, et c'est vrai que ce que fait Bardem, c'est-à-dire faire croire, littéralement faire croire que Paul est ce Messie... Et ce
mais en y croyant lui-même à 100%.
En y croyant lui-même, il y a un truc qui me paraît complètement fou.
Et c'est marrant que tu parles du personnage de Bardem, parce qu'il y a quelque chose d'aussi très intéressant par rapport à sa trajectoire, par rapport à ce qu'il raconte dans le film. C'est aussi une des rares incursions de Denis Villeneuve dans l'humour.
Ouais, complètement.
Parce que, alors clairement, son personnage, à chaque fois que le personnage de Paul Atreides va faire quelque chose, Bardem va s'écrier « C'était écrit !» Donc en fait, et ce qui est intéressant, c'est que parfois on sent que le but de Villeneuve est de faire rire, parce que c'est presque ridicule, genre il s'est touché l'oreille, c'était écrit et puis des fois quand il est accompagné de milliers d'autres,
parfois c'est juste émouvant,
c'est accompagné par la musique de folie d'Hans Zimmer, etc. Mais ce personnage, il est fascinant.
Non complètement, et t'as ce truc, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que Villeneuve réussit à faire autant une critique des théocraties, en fait, tu vois, du Moyen-Orient ou je ne sais quoi, que cette idée de Paul Atreides qui rentre dans la rébellion pour en prendre le contrôle, en fait, il y a c'est quand même les subversions américaines de des années 70-80. Il y a quelque chose d'extraordinairement subversif dans le propos de Villeneuve que je trouve constamment passionnant, quoi.
Surtout au milieu d'un gros blockbuster hollywoodien de cinéma, quoi.
Mais qui revient avec à la base l'œuvre d'Herbert, qui est quand même assez même surprenante dans la construction du récit initiatique d'un héros. On voit que Frank Herbert, quand il crée Paul Atreides, il lui donne d'abord les attributs et les archétypes du personnage de héros un peu classique, dans le sens où il va découvrir des nouvelles cultures et il va petit à petit, c'est un peu le mythe de Joseph Campbell, quoi, le voyage du héros qu'on voit dans Star Wars, dans Harry Potter, dans même Le Seigneur des Anneaux. Et là, on le voit dans le film et on le voit également dans le livre, on a ce point de bascule où il transforme son héros presque en tyran et en début de dictateur qui renverse l'empire installé, mais pas à la façon Luke Skywalker, quoi. On est vraiment dans une autre façon de faire de Paul, Et là, peut-être qu'on peut rentrer dans les détails, mais cette scène justement où il arrive au conseil des Fremen et accepte sa destinée, je la trouve impressionnante.
Mais déjà, visuellement, c'est dantesque. Ouais, ouais. Parce qu'on est
Chalamet est fou.
Chalamet est fou. Mais surtout, il y a vraiment ce truc où quand Chalamet arrive au milieu de l'arène et qu'il se retrouve confronté au personnage de Javier Bardem qui lui dit « Non, tu n'as pas le droit de parler si tu n'as pas pris ma place. » Sauf que Chalamet, enfin Atreides, refuse de tuer ce qu'il considère comme sa meilleure main, son meilleur guerrier. Et que d'un seul coup, toute cette salle, c'est même pas une salle, c'est cette immense grotte remplie de milliers, de dizaines de milliers de Fremen se relève et prêt à aller.
Prêt à aller
ils
le défier.
Sont prêts à en découdre et aller le défier.
C'est là où il dit, il n'y a aucun d'entre vous qui peut me battre.
Et ce qui est fascinant, c'est que lui reste, mais ne flanche pas d'un pouce. Il est tellement convaincu de sa destinée et du rôle qu'il a pour les protéger, pour les sauver, pour les mener en tout cas vers un avenir pour le certain, en l'occurrence. Oui, mais cette scène, elle est bouleversante, je trouve.
Ce qui est drôle, c'est que moi, j'adore le film. On n'arrête pas de dire c'est spectaculaire, c'est ce qui est vrai. Les combats...
On reviendra sur les grandes scènes d'action, notamment.
Le verre, tout ça, ok. Mais c'est un film génial de coulisses et de couloirs et de tractations, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que tout ce qui avait raté... Pardon, hein, c'est ce que... Mais, peut-être unpopular opinion, mais tout ce qu'avait raté Lucas dans sa prélogie, là, est absolument génial. C'est-à-dire que ce soit en termes de mise en scène, tu vois, la
Maison Blanche,
parles,
quoi.
Vraiment, il y a ça constamment, quoi. Et je trouve que toutes ces scènes de tractation, de un homme face à son destin, un homme face à...
Et puis de remise
à,
en question
de,
aussi,
exactement. Constance. Tout ça, c'est prodigieux, quoi. Mais vraiment prodigieux, par un truc de, encore une fois, par un truc de mise en scène et par un truc aussi d'incarnation et d'écriture.
Et puis encore une fois, tout ça au milieu d'un grand blockbuster de cinéma. C'est ça que je trouve démentiel,
en fait.
Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a le blockbuster, l'objet, et ce qu'il y a dedans, ce que ça raconte. Et c'est la combinaison des deux que je trouve folle.
Moi, il y a un truc qui m'intéresse. On parlait de la scène finale où justement Paul, endosse vraiment son destin.
Lisa Melgabid.
Ouais, c'est ça. Et le Lisa, pardon.
Oui, c'est ton surnom.
Oui. Bah ouais, on va m'appeler comme ça maintenant. Non, tout à l'heure tu citais aussi tout ce que ça veut dire sur quel miroir ça tend en fait de notamment la société américaine et en même temps cette question du pouvoir mise entre les mains d'une unique personne et à quel point cette unique personne peut en faire quelque chose de néfaste en fait, parce que ce qu'annonce aussi la fin de Dune, c'est un troisième volet sûrement très violent,
sur lequel on
chaotique
reviendra, ouais, bien sûr.
Et je pense que Paul va être au centre de ça, et c'est aussi le basculement en fait de cette force là qu'il a entre ses mains et qui je pense va lui échapper un moment. Et qu'est-ce que ça dit aussi quand tu as le pouvoir et ce pouvoir et cette représentation et que c'est sur les épaules d'un seul homme en fait.
Et puis un peu fou quand même.
Et qui fou, non mais c'est que
c'est ça qui est génial, exactement.
Et justement, ce qui est fantastique aussi, c'est de voir la progression, comme je disais, de l'évolution du personnage du début à la fin, surtout pour le personnage de Paul, et particulièrement au travers de sa relation avec le personnage de Zendaya. Parce qu'en fait, il y a ce truc où il est presque 100% transparent en fait envers elle. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il lui ment jamais, qu'il lui dit non, mais en fait,
non, elle le voit vraiment pour
j'ai pas envie de ça. Et même elle est consciente de ce qu'il est en train de devenir.
Et elle le suit pas pour ça.
C'est ça. Il y a une scène où il dit non, je partirai pas dans le sud, rejoindre les fondamentalistes. Quelqu'un lui demande pourquoi. On voit Paul partir dans le fond, d'un seul coup partir dans le brouillard et devenir flou. On reste avec Zendaya qui est très nette et elle dit à juste titre. Parce qu'elle est consciente aussi des enjeux de tout ça et on se rend compte que cette relation est vraiment clé quoi, dans le film.
C'est rigolo, la scène dont tu parles m'a fait penser, je sais pas pourquoi, hein, mais la scène dont tu parles m'a fait penser au Parrain et notamment à la scène toutes les scènes entre Al Pacino et Diane Keaton en fait. Et je trouve qu'il y a ça.
Il y a cette
idée de la femme qui voit le mari qui en fait basculer.
Ouais.
Et constamment, elle est témoin de ça. Elle est le spectateur, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on voit ce mec basculer. Et je trouve que ça me faisait penser un peu à ce qu'on avait dans le Parrain 1 et dans le Parrain 2, avec ce couple qui permet de toujours avoir le centre de gravité autour duquel lui va complètement vriller, quoi. Et je trouve que c'est vraiment vraiment génial. C'est quand même un tout petit peu mon regret dans le film. On s'en parlait un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement, et je trouve que leur relation à eux deux est un tout petit peu frustrante. C'est vraiment... Alors, effectivement, il a...
T'aurais aimé un peu plus de romance,
ouais,
un peu
ouais,
plus de...
Ouais, ouais, ouais. J'avais... Ne serait-ce que parce que j'adore Zendaya et que oui, la voir sûr. À l'écran, moi, tu vois, me...
C'est vraiment, moi, je trouve qu'il arrive à le faire de façon très simple et subtile. Très simplement, pardon, en, avec son montage, en fait. De voir le temps qui passe et de voir la complicité qui s'installe. Et presque, j'ai envie de dire, en fait, on n'a pas besoin de plus. On a tellement vu souvent... des romances entre le héros et un peu le love interest s'éparpiller et prendre beaucoup trop de temps parfois. Et même le récit est tellement dense par rapport à tout ce qu'il a raconté que je trouve ça malin de le faire de façon presque un peu montage rapide du temps qui passe et de la vie avec les Fremen et voir ce rapprochement entre les deux par juste des regards, des gestes, des petits moments un peu tendres. Je trouve ça en fait personnellement suffisant justement.
Et il y a quelque chose de pas anodin non plus, c'est la façon dont se termine le film, le plan final du film est ça, sur Zendaya.
Mais comme le premier.
Oui, mais c'est-à-dire que en fait, à la limite, le premier, ça pouvait être une invitation, une promesse, voilà.
Puis on les voyait suivre.
Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que le deuxième se termine sur quand même le début d'une guerre sainte. C'est littéralement ce que dit l'un des personnages. Et on voit les Fremen accompagnés du reste des Atreides partir dans l'espace pour aller se battre contre les autres grandes familles de l'Empire.
Et on fait que Paul devient empereur.
Et nous, on reste sur Terre, sur Arrakis, et on a un plan de Zendaya qui fuit, qui part vers un horizon inconnu, et le film se termine sur elle, quoi. Donc il y a une question de point de vue aussi qui est ultra intéressante, et qui sera peut-être aussi intéressante pour la suite, parce que pourquoi le film se termine sur un plan sur elle, alors qu'on pourrait très bien finir justement dans cette espèce d'énorme guerre sainte en approche pour la promesse de la suite, quoi. Revenons peut-être sur les grandes scènes qui ont marqué ce film-là. Robin, on a vu le film hier soir, on semble.
C'est vrai.
Tu as découvert ce film, on l'a découvert en IMAX.
Ensemble. Oui, tout à fait.
100% c'est en IMAX, je le rappelle. Expérience assez folle. Quelle scène t'as le... J'allais dire, quelle scène t'ont peut-être, au pluriel, le plus marqué ? Est-ce que tu as des grandes scènes ? Je pense plutôt peut-être à des scènes d'action sur lesquelles on peut un peu revenir peu décrypter. Parce que moi, sinon, il y a des dizaines de plans qui marquent.
Je parlais tout à l'heure un peu du rassemblement, de l'ascension de Paul en tant que leader. Ça, c'est indéniablement peut-être le pivot du film qui m'a le plus marqué. Mais en termes de scènes d'action purement cinématographiques, c'est... alors, du coup, il y en aura deux, mais c'est quand même les affrontements entre Feyd, Rota... et Paul, que ce soit à la fin du film ou lors de son introduction sur la planète des Harkonnen en noir et blanc, enfin en tout cas dans ce blanc assez incroyable. Et je trouve que les combats au corps à corps...
Ouais. Mais peut-être que pour commencer, on peut parler de cette scène sur la planète
de Feyd, Rota.
Sur la planète des Harkonnen avec ce soleil blanc. Ces espèces de feux d'artifice totalement difformes, cette arène, cette architecture sortie de l'imaginaire de Villeneuve, absolument monstrueuse.
Et d'Herbert,
bien sûr. Et puis, on est au milieu de cette arène. On commence avec un combat, de gladiateurs, oui.
C'est quasiment ça, ouais.
Mais avec des victimes, enfin, des combattants plutôt mal en point, quoi.
Bah en fait, dans un combat, il arrive à donner les caractéristiques de son personnage, donc incarné par Austin Butler, à savoir que c'est un psychopathe qui aime la violence et qui n'hésite pas à affronter des ennemis qui sont blessés, drogués ou déjà diminués. Mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'il soit redoutable même contre quelqu'un. Au contraire, même, c'est là où il va trouver son exaltation, qui est en pleine possession de ses moyens.
Il y a un côté SM,
ça,
en fait.
C'est assez intéressant.
Alexis, mais il y a un côté SM à la fois dans l'iconographie, effectivement noir et blanc, enfin beaucoup noir d'ailleurs, mais aussi dans ce que tu viens de dire, Robin, hein, c'est-à-dire cette idée de jouir de la souffrance, la sienne comme celle des autres.
Exactement.
D'ailleurs, ça c'est génial. Et avec une érotisation du personnage qui me paraît complètement folle, quoi. C'est-à-dire que vraiment on est dans un truc SM cuir qui pourrait être, moi les premières images que j'avais vues je me disais
c'est pas très rassurant,
ouais, je me suis dit ça passe ou ça casse. Et je trouve que quand tu arrives dans cette scène, dans cette arène, il y a un truc extraordinaire qui est une espèce d'exaltation et qui est chauffé aussi par tout ce que tu viens de prendre sur Arrakis. Et et je trouve que c'est magistral, quoi. Ça devient un autre film, t'as raison.
Ça offre comme une autre respiration.
Ouais. Mais il y a un truc de pure jouissance visuelle.
Et puis, sans trop d'exposition, ça permet aussi de développer tellement de personnages à la fois. Ouais. Que ça soit son oncle, interprété par Stellan Skarsgård, qui est donc cette espèce d'énorme mogul.
Le baron Vladimir.
Le baron qui est dans cette espèce de suite royale où il suit le combat. Il essaie de voir, grâce à ça, si son neveu va être assez puissant et assez fort pour relever les défis et ensuite l'envoyer pour gérer tout ce qui se passe sur Arrakis. En même temps, on a ce qui se passe avec le personnage de Léa Seydoux et de Charlotte Rampling, qui, elles, sont là pour tester presque l'avenir et le potentiel de ce candidat-là, mais qui en même temps sont effrayées de le voir potentiellement mourir, parce qu'elles se disent que si jamais il meurt, elles vont devoir trouver une autre solution pour arriver à leur fin. Et juste avec ce combat, et plus évidemment, il y a la découverte du personnage interprété par Austin Butler. C'est-à-dire qu'il y a ce truc d'espèce de fou furieux qui va aller jusqu'à la mort avec les trois adversaires qu'il a en face. Donc toute cette scène, avec très peu d'exposition, au final, arrive à donner tellement d'informations et de faire passer tellement de messages que ça en est vraiment impressionnant, quoi. Et puis il y a l'esthétique.
Ouais, et puis il y a un truc de noirceur aussi qui rappelle Dark Vador, évidemment.
Bien sûr.
Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est quand même que cette arène me faisait beaucoup penser en fait à un cinéaste dont on sait que Villeneuve se nourrit. C'est Ridley Scott, évidemment. Et je trouve que tous ces combats-là, vraiment, sont fabuleux. Et tu penses constamment, alors encore plus à la fin où tu penses à ces films de croisade, mais là tu penses vraiment à Gladiator, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment cette esthétique, ce sens du combat, de la géométrie dans les combats, de l'exaltation. Je trouve ça vraiment vraiment génial, quoi.
Du coup, on en revient à ce dernier combat.
Bien sûr.
Après l'introduction de Fade, le combat contre Paul, qui est vraiment une maîtrise physique, de chorégraphie, de charisme même entre les deux, et d'alchimie entre les deux, de fluidité bien sûr, et de violence. Ça faisait longtemps là aussi que j'avais pas eu un combat au corps à corps, au couteau, à l'épée, comme ça, aussi bien géré. Pas de musique, le film prend vraiment le temps de le faire vivre, ce combat, avec ses pauses, avec la fatigue qui s'inscrit sur le visage des deux personnages. Pareil, on garde Austin Butler qui est totalement psychopathe dans la façon dont il va provoquer Timothée Chalamet. Timothée Chalamet qui a encore cette posture du Messie qui voit l'avenir, donc il sait quand même où ça va, mais on sent qu'il est dans ses retranchements. Et je trouve ça génial de finir le film sur quelque chose d'aussi spectaculaire dans l'intime. C'est une pièce, on a presque juste deux silhouettes face à un coucher de soleil. Mais ça fait penser un peu à la fin du premier, où pareil, on terminait sur un combat entre deux personnages au corps à corps, comme ça.
Et comme dans le premier, entouré de tout d'une vraie assemblée, avec des ennemis.
En sachant que le dénouement de ce combat va avoir des importances, pas juste sur les deux participants, mais sur le reste de l'univers.
Puis je trouve que même si ça reste une scène intime, tu es tout le temps dans le doute de ce qu'il va se passer à la fin, en fait. Tu es quand même dans ce truc de est-ce que Paul peut s'en sortir, parce que en fait, ça fait 2h30 que Denis Villeneuve nous montre un personnage complètement violent et psychopathe aussi. Donc il peut aussi le vaincre. On sait aussi que les Bene Gesserit, elles ont plusieurs plans, on va dire. Il n'y a pas que Paul finalement qui pourrait être l'élu. Il y a aussi ce qui peut naître de l'alliance entre le personnage de Léa Seydoux et celui de Austin Butler aussi. Donc il y a toujours ça, je trouve ça bien en fait d'instiguer toujours le doute en fait sur ce dénouement, et ça prouve encore une fois que il arrive à peut-être pas réinventer, mais à instiguer quelque chose au niveau des enjeux scénaristiques de Denis Villeneuve dans un blockbuster faramineux, quoi.
Et puis il y a aussi, en un mot, la tension folle sur le fait qu'il y ait le personnage de Zendaya qui regarde cette scène, parce qu'on sait que c'est terminé. Enfin, on sait que visiblement, ça va être, il va prendre un chemin où malheureusement,
elle ne fera pas partie
de l'équation, quoi. Et il y a ce truc où elle assiste à ça.
Bah en fait, elle sait qu'elle le perd d'une façon ou d'une autre. Soit il meurt, soit il gagne, il devient empereur et il épouse la fille de l'empereur actuel. Donc il y a quelque chose de dramatique dans son regard par rapport à ça.
Et ce que je trouve génial aussi, c'est ce que tu disais, Lisa, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que d'un point de vue narratif, tout est possible. Il peut perdre. C'est-à-dire que pendant 2 heures ou pendant 2 heures et demie, Villeneuve t'as conditionné pour que, ben, peut-être qu'en en réalité il est fou et que son destin n'est que dans sa tête, ou peut-être c'est ça, que c'est oui. vraiment c'est vraiment l'élu et que c'est lui qui doit mener tu vois triompher. Et je trouve ça génial que ça s'abolisse dans ce combat qui reste constamment indécis quoi. Je trouve ça vraiment vraiment
et
super.
Puis, qu'est-ce qu'il est bien chorégraphié. Non, mais...
c'est ça déjà déjà le...
qu'est-ce qu'il est bien chorégraphié.
Le style avec ses mais... dagues. C'est magnifique à voir.
Timothée Chalamet nous fait de ces roulades. Vraiment,
c'est coup de pied.
C'est coup de pied très
et ça,
bien
et ça suit juste un moment aussi important dans, dans la caractérisation du personnage où il utilise la voix contre, la, contre le personnage de Charlotte Rampling, la révérende mère.
Un extrait qu'on voit souvent dans les bandes annonces, qui est d'une force.
C'est ça, qui lui hurle de se taire et on sent qu'il a à ce moment-là l'ascendant sur absolument tous les personnages.
Quel, quand elle, que ça soit l'empereur, ce mouvement de recul.
Exactement.
Ouais, elle a cette peur sur le visage. D'un
et coup, en fait, c'est là où finalement on nous dit quand même que, ben, en fait, c'est lui l'élu que les Bene Gesserit ont cherché à construire depuis des décennies et par l'action de Jessica de faire naître un mâle et non pas une fille. À créer quelque chose de nouveau et c'est ce que Charles Trampling dit, une abomination et c'est ça en fait qui est la bascule même du film.
Mais on les, enfin là la transition est toute trouvée. Tu mentionnes Charlotte Rampling, mais on n'a pas mentionné Rebecca Ferguson, qui, je pense, pour moi, est le personnage le plus finalement terrifiant de ce film, plus que les Harkonnen. Finalement.
Elle est vraiment extraordinaire.
Il y a quelque chose. Dans... Elle est sa fille, finalement.
Tu la voyais. C'est marrant parce que
il y a une évolution.
Tu la voyais
personnage.
Quand même un peu vriller. Rétrospectivement, tu la vois un peu vriller dans le 1.
Ah,
tu
oui,
vois,
oui.
C'est ce truc. C'est-à-dire que quand tu vois le 2 et ce qu'elle devient et que tu repenses au 1, tu te dis ah ouais ok ce moment là où ça.
Elle a des
c'est pas très net.
Enfin, on parlait de la religion tout à l'heure, tout ce mysticisme autour de la mère sainte, mère de l'élu. Enfin, il y a toute une mise en scène qui est mise autour d'elle, je trouve, qui est magnifique et où en fait, tu vois juste ses yeux bleus qui percent, mais qui sont en même temps magnifiques et à la fois terrifiants, parce que tu te rends compte que c'est son ordre à elle, cet ordre de sorcière. Et en plus, enfin, même le mot sorcière, tu vois, il en dit beaucoup, qui sont en train de prendre le contrôle de la galaxie en quelque sorte.
Et ce qui est fascinant, temps, c'est que ça fait des générations des générations, des centaines d'années qu'elles sont là et qu'en fait
elles ont un plan machiavélique,
mais elles contrôlent tout.
Mais le personnage de Rebecca Ferguson est quand même une dissidente par rapport à Charlotte Rampling. On a quand même ce truc de, elle accepte les enseignements qu'elle a eus et elle les utilise. Mais elle est persuadée voilà, que son fils est l'élu et le Kiwats, j'arrive plus du tout à le prononcer. Mais
c'est
en
très
gros,
bien
c'est,
tenté parce que moi j'aurais même pas prononcé la première syllabe.
Je sais, c'est en gros celui qui venait d'ailleurs. Quoi. C'est vraiment l'être parfait qui doit amener l'humanité vers un nouveau chemin. Donc c'est ce que les Bene Gesserit essayent de faire depuis des décennies en contrôlant. La génétique pardon des reproductions à travers leur ordre et donc elle est persuadée que son fils est cet être parfait alors que Charlotte Rampling et c'est d'ailleurs ce qu'elle lui dit a un doute quand même par rapport à ça et elle termine par lui dire que elle aurait dû croire à ça pour pas être dans l'autre camp ce à quoi elle lui répond d'ailleurs
oui,
qu'il y a
ça.
Pas de camp et
c'est intéressant de se dire ça parce que là on parle de elle a choisi d'être de son propre côté sauf qu'en fait ce que rappelle le personnage de Charlotte Rampling c'est qu'il y a pas de camp.
Vous avez beaucoup parlé de la planète des Harkonnen, moi je trouve que sur ce qui se passe sur Arrakis c'est quand même assez génial et alors avant d'aller dans les sous-sols d'Arrakis il y a quand même tout ce qui se passe dans les dunes et c'est marrant parce que tu demandais quelle scène d'impressionner
ben justement j'avais posé la question à Robin
mais
je n'hésite pas
je vole le temps de parole.
Ah bah non,
non moi la chevauchée des vers, je trouve ça vraiment génial. D'abord d'un point de vue esthétique, enfin je trouve la scène vraiment vraiment canon.
Mais j'aime beaucoup Javier Bardem qui oh not a big one.
C'est ça. Non et ça m'a fait penser à tu vois toujours, je pensais à beaucoup de films en voyant Dune. Ça m'a fait beaucoup penser à Cameron. C'est je trouve que tout ce qui est sur Arrakis me rappelle un peu quand même Pandora quoi. Il y a cet effet de nature, de luxuriance, alors même si c'est le désert et la sécheresse et la chaleur, je trouve qu'il y a une beauté des
non,
décors.
On en prend un peu plus sur la faune et la flore.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, tout est beaucoup plus rouge. Que dans
oui, c'est vrai. C'est
on
vrai.
A cette sensation. Je pense à l'intro,
il
là.
Façon, il
l'intro
une façon,
l'intro silencieuse, là.
Une façon de filmer le sable.
Moi, c'est celle-là.
Ça, c'est génial.
Il grimpe dans le sable et que tout...
Non, mais ça, c'est extra.
Même cette sorte de danse, en fait, qu'ils font à deux, tu sais, où c'est limite de la la danse contemporaine dans du sable.
Ah ben le plan où on voit Zendaya et Timothée Chalamet s'éloigner et qui faire la danse,
la danse du verre,
pour justement casser la
marge du
verre. Ouais, c'est ça.
Je trouve que même ce genre de détails de mise en scène en fait et de direction d'acteur, comme on disait tout à l'heure, ça catalyse plein de trucs en fait. Ça va être autant comment le personnage de Timothée Chalamet va devenir un Fremen que comment on cristallise en fait le rapprochement, ce qu'on disait tout à l'heure, entre Shani et Paul, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de... En fait, il y a des micro-détails de partout, ce qui fait que je pense Dune peut se revoir milliard de fois et demi au
d'ailleurs,
cinéma.
Tu parlais du fait...
Enfin, tu trouveras toujours quelque chose, en fait. Et pardon, on était sur Arrakis.
Non, voilà.
Ah oui, du coup, vas-y, reprends, parce que j'avais coupé sur autre chose.
Non, moi j'avais... c'était juste ça. Moi, je trouve que la scène du verre, la chevauchée du verre, c'est un truc que t'attends et qui est vraiment, vraiment extraordinaire à voir. Quoi.
Et le point culminant de ça, c'est la scène finale de l'attaque où on voit les vers qui servent et qui sont partie prenante de l'assaut contre justement les forces de l'empereur. Ouais. Quoi. Et là, d'un seul coup, quand on a ce plan monstrueux qu'on a vu en IMAX en plus, avec les trois énormes vers des sables qui apparaissent à l'écran et qui foncent comme ça sur les...
l'armée qui est sur les vers.
Sur l'armée qui... Oui, en plus, il y a l'armée.
T'as les soldats qui utilisent les vers.
C'est pas
pour
juste
arriver,
des vers. Ouais, ouais. C'est ça, c'est un moyen de transport. C'est absolument, absolument majestueux, quoi.
Non, juste
et on est d'accord que quand ils commencent l'attaque, les missiles qu'ils envoient, c'est les fameuses têtes nucléaires.
Pour moi, oui.
Oui,
c'est...
parce que sinon,
au moins une pour venir.
Je crois qu'il y en a deux ou trois missiles qui partent, mais je sais plus.
C'est celles qui ont été cachées par l'étau, c'est ça ?
Parce que sinon, je vois pas ce que ça peut être d'autre comme
missiles. Oui, pour moi, c'est ça. Bah, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, ils arrivent à détruire le bouclier de l'empereur et à commencer à prendre la cité.
Putain, j'ai ça, ouais.
Il y a un truc, justement, parce qu'on parle des boucliers, que j'ai pas bien compris. C'est au tout début du film, scène d'intro, quand on a justement les Fremen. Il y a des Harkonnen qui arrivent, les Fremen font appel à un ver pour les piéger, grosso modo. Ouais. Les Harkonnen montent sur cette espèce de canyon, ils sont sur le toit, ils se font massacrer un à un, et au tout début, le premier dit... Enfin, il y en a un qui tombe, le deuxième dit « Attention, surtout, ne mettez pas vos boucliers. » Et ça, je dirais que je n'ai pas compris pourquoi il lui dit « Ne mettez pas vos boucliers. »
Je vais le revoir demain.
Eh bien, merci.
Quand je sors de la séance, je fais la même réflexion.
Ça, je n'ai pas compris. Parce qu'autant les vaisseaux, si en effet, ils ne peuvent tirer que si leur bouclier n'est pas activé. Donc ensuite, c'est d'où la scène après de l'attaque avec Zendaya qui lance un missile sur le vaisseau, enfin l'appareil qui explose. Mais sinon, soit
le bouclier, tu veux dire sur eux.
Oui.
Est-ce que c'est pas parce que le bouclier il fait un bruit, tu sais, en continu vibrant et que du coup le ver n'est attiré que par
le ver. Mais le ver, ils sont en haut du canyon, donc le ver peut pas les atteindre. Et puis de toute façon, ils ont bien vu qu'un de leurs collègues venait de mourir.
Le ver peut les atteindre quand même. T'as vu là, on est en train de faire.
Ouais, c'est vrai. Je sais pas.
Je t'appelle quand je sors de la séance.
Écoute, on s'en reparle. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux de Pathé. La scène des vers, la scène sur la planète, Lisa.
Mais non, je pense qu'on parle depuis tout à l'heure. On veut parler depuis tout à l'heure de la même scène, c'est-à-dire cette scène d'intro justement avec les Harkonnen, hyper sombre, mais orange, très sombre, très silencieuse.
Très calme, c'est ça.
Très calme, alors que c'est quand même
une belle réintroduction, je trouve, à l'univers et à ce qu'on avait vu avant. C'est vraiment la suite directe
immédiatement, parce qu'ils ont
le corps du personnage qui est tué par
à la fin du premier.
Je trouve que c'est une très bonne utilisation de tout l'en... En fait, c'est un des exemples de la bonne utilisation du sable, en fait, encore une fois, dans ce qu'on a dit à plusieurs reprises. C'est un élément de mise en scène. Et effectivement, quand tu marches sur du sable, tu ne fais pas de bruit. Et alors que c'est peut-être un peu contradictoire quand tu vois Dune, qui est du grand spectacle, que le travail sur le son, sur l'image, sur la musique est quand même hyper conséquent aussi. C'est contradictoire et en même temps ça s'assemble hyper bien dans sa mise en scène. On reprend tranquillement, quoi.
Il y a aussi tout un truc sur l'eau. Ouais. Sur la gestion de l'eau, sur à quel point elle est précieuse, même jusqu'au moment où quand le personnage de Rebecca Ferguson est enceinte et s'apprête à vomir, Javier Bardem lui dit « Non, surtout
pleure,
pas !»
La
moindre
pleure,
goutte
la
d'eau, goutte, le fait de tout récupérer pour justement bâtir potentiellement dans le futur un espèce d'Arrakis vert. Alors du coup, on découvre d'ailleurs qu'Arrakis s'appelait auparavant Dune. Hein.
Oui.
C'est tout le
sujet. En tout cas, le nom Fremen de la planète est Dune.
Est-ce qu'on a fait le tour déjà sur les grandes scènes marquantes?
Attends, il y avait juste un truc que tout à l'heure tu disais, et ça m'y fait penser, mais c'est vraiment un détail. Et ça revient un petit peu sur la trajectoire de Paul que je trouve intéressante. C'est que pendant tout le film, on nous montre Paul qui se donne vraiment corps et âme à comprendre les Fremen et à accepter leurs coutumes. Et au point vraiment de s'investir dans cette mission, la langue, la façon de se battre, d'utiliser le sable.
Marcher.
Et le seul moment où justement il arrête ça, c'est le moment où il prend l'ascendant sur eux, il devient le messie. On revient à ce moment où il rentre dans la réunion des chefs Fremen et qu'il leur dit que c'est lui qui trace leur propre chemin. C'est le seul moment, en fait, où ils refusent de suivre leur éducation et leur instruction. Et je trouve que le point de bascule est intéressant par rapport à ça. On sent qu'il devient autre chose et qu'il n'est plus Fremen ni duc et qu'il va justement vers la place de Messie. Voilà, c'était un petit détail.
Mais non, mais qui est tout à fait pertinent, Lisa.
Non, je sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire là, pour le coup.
Mais on s'accroche, en tout cas.
Non, enfin, tu parles de Messi, et toute cette scène aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, et vous évoquez aussi les obsessions de Villeneuve, sa continuité dans sa filmographie. Moi, je trouve que toute la dernière heure, justement, où t'as tout cet impact de « ça y est, je suis le Messi », etc., je trouve que dans la mise en scène, il arrive à s'approprier des codes et des coutumes du Moyen-Orient. Ça pourrait être risqué, ça pourrait être... Je trouve qu'il le fait de manière hyper bien dosée. Je pense qu'il est très... Enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui fait beaucoup ses recherches. Moi, j'ai toujours Incendie dans la tête, finalement, quand je pense à cette scène-là, parce que c'était aussi... Il allait sur ce terrain... ce terrain religieux, et puis cette partie de la planète, tu vois. Alors que, pour le coup, il est canadien. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, d'en avoir fait un argument de mise en scène et en même temps un argument narratif, en fait, pour construire une sorte de décorum autour de ça, autour de la mythologie du Messie. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Il avait ça aussi, je trouve, dans Sicario, c'est-à-dire la manière dont il utilisait les coutumes des
quelle
Mexicains.
Quelle carrière de fou, quand même. En fait, mais parce qu'on en reparlait avec Romain en rentrant du cinéma hier et on se remettait sur la filmo du bonhomme.
Il n'y a pas un mauvais film.
D'une deuxième partie, d'une première partie, Blade Runner 2049, premier contact, et moi je pense à un de mes films de science-fiction préférés tout court de l'histoire du cinéma. Mais quel cas ! Et puis tout ce qu'il a fait avant, de Sicario jusqu'à Polytechnique pour remonter un peu plus loin, quelle carrière de malade, quoi. Tu parlais de Christopher Nolan tout à l'heure. On est face à un génie du cinéma.
Et il a le Messie Dune.
Il a le Messie qui arrive, mais j'ose espérer qu'on va le laisser pouvoir faire absolument tout ce qu'il veut, que ce soit sur Dune ou d'autres projets chez les majors américains, parce qu'il ne fait que grossir.
Ça a
l'air très bien parti. Les premiers chiffres au box-office de ce deuxième film sont extraordinaires. C'est bien entendu le plus gros démarrage de 2024, donc j'ose espérer que la carrière du film sera belle. Mais
par contre, si justement il fait le livre suivant, donc Le Messie de Dune, ça va être fascinant de voir comment il va faire pour s'emparer d'une histoire qui change à ce point l'attachement qu'on a envers les personnages et la trajectoire des personnages dans le format blockbuster américain quand même.
Mais c'est toute la réussite du 2 au final. C'est
et
toute
le 2 commence, je trouve que la dernière demi-heure montre déjà comment il va faire.
C'est ce que j'allais dire.
On se rend compte qu'on a perdu Chalamet.
Voilà,
on
c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu commences à te dire qu'en réalité,
il
est devenu dingue. Voilà. Et que effectivement, celui que tu pensais être le grand méchant dans le rôle de, enfin, avec Austin Butler, tu te dis, ah ben non, mais je pense qu'il y a pire.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un méchant très psychotique avec Austin Butler, mais qui physiquement dégage de la méchanceté parce qu'il tue.
Mais c'est un archétype, encore une fois.
C'est ça, c'est vraiment l'archétype ultime du méchant. Et d'un côté, on a ce Paul Atreides qui, au final, va devenir peut-être le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Tout dépendra de la façon dont justement ce Dune Messie
est. C'est là où Chalamet est génial, encore une fois. C'est que c'est la manière.
Revenons un peu justement sur le casting.
Non, mais c'est juste la manière dont. On a un enfant qui est un peu qui dans le premier est un peu excité avec Jason Momoa qui veut aller faire la guerre, etc.
Et l'autre qui lui dit t'as pris du muscle, voilà, c'est vraiment le truc
un gamin qui découvre la vie et on finit avec un type qui est en train de devenir un dictateur intergalactique
et qui va se lancer dans une conquête de l'espace
mais complètement fou, et je trouve que même physiquement dans ses attitudes, dans ses mimiques,
il a une présence.
Je trouve que ce qu'il dégage et un truc animal qui devient incontrôlable, particulièrement dans la dernière,
juste
dans la toute fin
du pied.
Du tout. Mais ça c'est fou, ça c'est
pour
fou.
Faire en sorte que l'empereur s'agenouille.
C'est incroyable.
Christopher Walken qui a très peu de texte, très peu de temps d'écran, mais qui est
tout
qui
par
est
sa présence et son charisme.
Florence Pugh également. Moi j'aime beaucoup cette cette réplique qu'elle a quand à la fin du combat où il vient de tuer le personnage de
Austin Butler.
Austin Butler qui est donc son cousin.
On va peut-être revenir un peu sur le twist après.
Parce qu'on, oui, en effet, on pourra revenir là-dessus. Quand il s'approche ensuite de l'empereur, avec sa dague et que Florence Pugh s'approche presque pour le protéger en mode le prix du sang a été versé, épousez-moi, vous serez empereur, je serai votre femme et laissez mon père en paix. Il y a ce truc, c'est tout cet enchaînement. Et puis juste après, on a les maisons qui continuent d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Envoyez-les au paradis.
Ouais.
Et il y a c'est une des dernières répliques du personnage d'Atreides. Chalamet est brillant.
Et les Fremen d'ailleurs qui sont heureux dès qu'ils donnent l'ordre. Quoi.
Oui, c'est ça.
Vraiment,
en mode ça y est,
les Fremen vont le suivre jusqu'au bout.
Et la force de ce casting, on a parlé de Zendaya, on a parlé de Chalamet, d'Austin Butler, de Rebecca Ferguson, de Josh Brolin qui est fantastique. Moi, ce que je trouve génial, c'est
Javier Bardem.
Ouais. Mais Josh Brolin, j'adore sa sa fidélité envers et sa loyauté envers le personnage de Paul, et en même temps sa retenue et la façon qu'il a de protéger Zendaya dans la scène où justement Paul prend la parole face à ces milliers de Fremen, en mode attends, c'est pas le moment, là tu risques de...
Et la petite émotion qu'il a à chaque fois que Paul fait appel au fait qu'il est duc. Et dès qu'il revient...
Dès qu'il fait référence
à sa maison, à son
maître,
là, on sent à quel point...
On sent la fierté, quoi.
Et surtout la fidélité, en fait.
Ouais.
C'est que ça soit les Fremen, pour les raisons religieuses, ou tout le reste de la planète Atreides, ou en tout cas de ce qui reste de cette grande maison, par sens du devoir, de l'honneur, il a en fait, sur tous les tableaux, il a gagné.
Mais tu vois, c'est là aussi, je suis en train de repenser à la trajectoire de Brolin dans le film. Pensez que au début, il est le mentor de Paul Atreides, celui qui, je sais pas si vous vous souvenez, leur rencontre se fait sur un combat où ils sont en train de et voir comment comment il le mentore, comment il veut lui apprendre les choses et pour arriver à ces moments où en fait il n'est plus qu'une espèce de garde-fou, parce que c'est ça en fait son rôle, un garde-fou et celui qui va essayer de limiter les dégâts par rapport à ce qu'il voit de Paul. Je trouve ça génial en fait, le changement du
non mais à un moment donné chef-d'œuvre absolu.
Alexis parle que trois mots depuis tout à l'heure.
Écoute, en parler me
moi j'ai envie de revoir le 1 encore. En fait.
Ça me donne envie.
J'avais revu vraiment avant d'y aller il y a deux semaines et je trouve encore. C'est pour ça que je disais au début que je les trouve différents mais tout aussi qualitatifs.
Faire les deux d'un coup, quoi.
Mais ça va être incroyable quand la trilogie sera finie. Ça va être incroyable.
Les bonnes séances à quoi pouvoir se faire.
Robin mentionnait les twists. C'est ces twists-là qui vont faire que ça va exploser dans le 3.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Robin a une certaine passion pour une certaine actrice qu'il va mentionner dans quelques secondes, rassurez-vous.
Il y a à peu près une seconde et demie d'écran.
J'espère qu'il n'attendait pas le film que pour ça.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'avait pas la moindre idée, quand on a découvert le film avec Lisa, que cette actrice était dans le film.
Robin m'a quand même confié, moi je le savais avant. Mais
j'avais un doute. Quand tu m'as parlé,
mais comment
après.
Tu avais un doute?
Parce que au début, elle était en visage.
De qui parlons-nous, Robin, s'il te plaît?
Anya Taylor-Joy.
Ah, la fameuse.
Oui. Non, elle avait auditionné au début. En tout cas, elle était envisagée pour avoir le rôle de Florence Pugh.
D'accord.
En tout cas, ça se jouait entre les deux. Et après, il y avait eu quelques rumeurs comme quoi elle aurait un autre rôle dans le film.
Mais qui joue-t-elle dans ce film?
Alors, c'est ça qui est intéressant quand même. Elle joue donc la deuxième fille, le deuxième enfant plutôt, de Lady Jessica et de Leto, le duc Leto.
Vous avez remarqué que Robin cite les noms des personnages depuis le début et moi le nom des acteurs. aucune mémoire.
Donc de
Rebecca
Ferguson et de Oscar Isaac.
C'est très bien de nommer les personnages, au contraire.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on voit Rebecca Ferguson qui effectivement prend l'eau de vie pour devenir la nouvelle... la nouvelle révérente mère du peuple des Fremen, mais comme elle est enceinte, ça crée donc un personnage assez atypique et assez intrigant, qui est une fille déjà développée dans son ventre, qui lui parle, qui est consciente de l'avenir de Paul, et Paul est conscient également de son avenir à lui-même et à elle. Et donc, dans une scène un petit peu énigmatique, on voit Anya Taylor-Joy en fille de Jessica, sœur de Paul, qui s'adresse à lui.
Petite fille du baron.
Petite fille du baron.
Totalement, tout et comme oui. Paul et le voilà, parce qu'on a aussi donc cette révélation comme quoi Jessica était la fille du baron Vladimir Harkonnen.
Un véritable soap opéra, hein, on découvre.
C'est un peu ça, mais d'ailleurs on se souvient, ouais. Et c'est là où ça va devenir bizarre et les liens de famille, faudra faire une petite fiche parce que là je les ai pas trop. C'est que le baron était également le cousin de Leto Atréide.
Aïe.
Alors... Dans le premier film, on voit quand ouais. Oscar Isaac ouais. est fait prisonnier, il est sur la table nu, paralysé, et on a le personnage donc, du baron Harkonnen qui s'approche et qui lui dit cousin.
Alors, ouais. on va faire
Harkonnen
des dessins.
Harkonnen a marié sa propre fille à son cousin.
Non, parce qu'en fait, il ne savait pas que c'était sa fille.
Il ne savait pas que c'était sa fille.
En tout cas, sa fille ne savait pas que c'était son père.
Allez, oui, chez vous. Jusque-là, plus logique.
Faites-nous des
Attendez, parce que
dessins.
Moi, je suis en train de regarder Game of Thrones en même temps. Là. Donc là, ça commence
Qui
à devenir un peu trop compliqué. Là, ce jeu.
Alors, sans supplie, ne mélange pas les deux, au risque d'avoir une rupture d'anévrisme très rapide.
Tu parlais tout à l'heure des rumeurs de casting autour d'Anya Taylor-Joy.
Mais donc oui, nous, on ne savait pas qu'elle était dedans. Oui. Et toi, alors, malheureusement, elle est apparue sur...
Après, ça a été un peu annoncé.
Oui, c'est ça.
Après, elle a apparu
Elle est apparue sur une avant-première, mais donc nous, par la force des choses. Mais nous, c'était une surprise.
C'était une surprise.
On avait tous les deux dit, il y a des choses que tu
Ah non,
mais
j'ai rien dit. C'est Lisa qui a
ah oui,
spoilé.
C'est vrai, Lisa. Non,
j'ai pas spoilé.
Si t'as dit, il y a un truc qui va pas.
J'avais le choix entre Anya Taylor-Joy ou Eva Green. Donc, après.
La réputation que vous me faites dans ce podcast.
Non, mais ce que tu dis sur les rumeurs de casting, en fait, maintenant qu'on a vu le film, c'est peut-être différent, mais je trouve que la manière. Enfin, ce que véhicule finalement Anya Taylor-Joy dans le cinéma hollywoodien aujourd'hui. Correspond finalement plus à ce qu'on a vu d'elle dans Dune 2, c'est-à-dire la sœur de Paul Atreides, qui potentiellement va avoir un rôle hyper méta, métaphysique, mystique, comme sa mère finalement, plus que celui de Florence Pugh. Tu vois ce que je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je trouve que l'alliance en fait d'un Timothée Chalamet et d'une Anya Taylor-Joy dans un troisième épisode va vraiment faire des étincelles. Déjà que ça fait des étincelles avec Zendaya ou avec Florence Pugh aussi, parce que je pense qu'il y aura aussi cette dynamique-là.
Sachant qu'elle va être Mad Max en plus. Donc
Et voilà, en plus maintenant...
C'est quand même marrant de dire qu'elle va jouer potentiellement dans les deux meilleurs films de l'année.
Mais elle était censée être...
Bon, elle joue pas beaucoup. Non, mais elle joue pas beaucoup quand même dans Dune 2.
Non, elle a...
Elle est dedans.
Est-ce que toi, tu es dedans? Bah si, il est dedans.
Moi,
okay.
Je ne suis pas dedans. Je suis dans la foule des Harkonnen.
Non, par contre, je me demande à quel moment son personnage, incarné justement, en tout cas, par Anya Taylor-Joy, aura un impact. On a un peu cette histoire de l'âge, quand même, forcément.
Parce que visiblement, dans les bouquins, dans le bouquin, si j'ai bien compris, elle est très présente.
Oui.
Le personnage de la sœur, donc interprété par Anya Taylor-Joy dans le film, est très présente dans le livre. Et même, je crois que c'est elle qui tue le baron Harkonnen. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, elle a été gommée dans l'adaptation de Villeneuve d'Ebert. Elle n'est pas là.
Elle n'est pas encore
parce née, que je crois quoi. Que c'est, je crois qu'elle a 2 ans. Parce qu'en fait, ils partent en exil pendant 2 ans, en fait, Paul Atreides et compagnie. Sauf que là, le fait est que si on suit la grossesse, alors on ne sait pas de combien de mois est une gestation sur l'univers d'Arrakis. Est-ce que c'est toujours 9 mois comme aujourd'hui? Parce que c'est censé être dans notre univers. C'est censé être dans très longtemps, finalement, Dune. C'est censé être dans 8000 ans.
Oui, tout à fait.
A priori, il n'y a
tout
pas
à
de...
Fait aussi.
Tout à fait. Il est allé vérifier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, dans le livre, en tout cas, si j'ai bien compris, je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que ça sera chose faite suite à la découverte de ce deuxième opus. Elle a 2 ans à la fin du film. C'est elle qui... Elle est déjà très avancée. C'est-à-dire qu'elle parle, elle est très loquace.
À cause de Ludwig, qui a pris sa mère.
Et donc, en fait, je pense qu'elle va avoir une croissance assez exponentielle qui va faire que le gap d'âge, parce qu'en effet, si Paul Atreides dans le film a une vingtaine d'années et qu'elle en a 0, il y aura un gap de 20 ans qui, à mon avis, sera rattrapé très vite dans le prochain opus, justement par ce twist scénaristique.
Mais ça va être super intéressant de voir à quel point on touche justement à des domaines qui dépassent même juste l'enjeu politique. Quoi. On parlait un peu de la religion, de la foi, mais là, on a même du mystique dans la façon dont c'est annoncé et avec l'autre twist, quand même, dont on a parlé à la fois le fait que ce soit le cousin et à la fois que la naissance de la deuxième fille. Enfin, en tout cas, de la deuxième enfant de Jessica soit proche, c'est qu'en prenant l'eau de vie également Paul, parce que donc il fait le rituel aussi, acquiert cette conscience du présent, futur, passé, qui donne quand même des indications sur lui, le chemin qu'il doit prendre. C'est à cause de ça qu'il va dans le sud, c'est parce qu'il voit justement qu'il n'a qu'une seule possibilité. À faire pour sortir
il
gagnant.
Il boit avant d'aller dans le sud.
Non, en fait, il hésite à aller dans le sud et il comprend à la fois par ses visions qu'il a et par le discours d'autres personnages que avant de prendre une décision, il faut qu'il ait conscience de tout. Et pour avoir conscience de tout, il doit boire le.
C'est pas dans le sud qu'il boit.
Oui, du coup,
si,
il va
dans le sud pour boire.
Et c'est après où il devient le messie. Littéralement. Donc ça va être très intéressant de voir comment cette gestion de vision, de futur...
Ouais, de l'espace-temps, finalement.
C'est ça, et de conscience qu'il a de tout va se caractériser.
Et peut-être un dernier mot sur un personnage majeur du film, qui est la musique. La partition d'Hans Zimmer, qui est absolument magistrale. On se rappelle qu'il avait remporté l'Oscar de la meilleure bande originale pour le premier film, il y a 2 ans. Enfin, la cérémonie des Oscars 2022, pour un film sorti en 2021. Ce qui est assez étonnant et ce qui est même très rafraîchissant d'une certaine façon, c'est qu'il change absolument tout par rapport au premier film. On retrouve très peu de gimmicks musicaux et de thèmes, en tout cas, du premier.
En tout cas, juste à des moments clés.
Des moments clés. Mais en effet, ce qu'on disait avant l'enregistrement aussi, le thème très connu du film revient...
De percussion.
De percussion, revient sur... Et même des chœurs. Revient quand Paul...
S'élève
quoi,
littéralement,
et qui va vers son destin. Et la grande force de cette bande originale, de celle du deuxième opus, c'est le thème de Shani, qu'on va retrouver au début du film à chaque fois qu'elle est à proximité, enfin toutes les scènes qu'elle partage avec le personnage de Paul, et ce thème là va commencer presque doucement pour finir sur quelque chose d'orchestral, de bouleversant dans le générique de fin, et qui est un thème mais qui est extraordinaire. C'est une nouvelle,
c'est symphonique quoi. On a vraiment, il était un peu dans de l'expérimentation, je trouve, rythmique dans le premier film. Là, il reprend à nouveau les orchestres et c'est...
Et je trouve qu'on... Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Vangelis, en fait, sur Blade Runner, sur les tonalités, sur les instruments utilisés, sur le rythme. Il y a quelque chose de vraiment magistral dans cette bande originale. Et on est très content que ça existe, quoi. Parce que moi, je sais que je vais la poncer.
C'est quand Zimmer reçoit le nouvel Oscar dans un an ou deux.
Non, mais justement, sur les Oscars, est-ce qu'au final, c'est pas super qu'il ait été décalé?
Parce que
Oppenheimer est probablement tranquille pour la cérémonie là, qui arrive ce dimanche. Et
c'est vrai ça, vous imaginez si on avait Oppenheimer et Dune 2 en face, c'était impossible.
Terrible.
Un conflit de loyauté pour Robin.
L'occurrence, on aurait vu les deux films, on les aurait beaucoup aimés.
Oui,
mais c'est vrai que là, il y a moyen que...
Heureusement que vous votez pas.
Sinon, t'imagines. Mais l'Académie ne nous a pas encore contactés. Mais en tout cas, peut-être que l'année prochaine, les Oscars 2025, ça sera le grand big sweep de Dune.
Je crois que t'allais dire peut-être l'année prochaine, on votera.
Ouais, peu de chance.
Oula, il a un petit peu envie.
Sur la version anglaise de Saint-Tenant.
C'est ça.
Il
est prêt à aller s'acheter son smoking. Merci Gaël, en tout cas, pour cette adaptation en anglais. Si t'as cru que je l'avais raté, c'est perdu. Mais en tout cas, mais oui, parce que après à voir, bien sûr, très grands films qui arrivent cette année. Mais c'est vrai qu'on commence au bout de 2 mois, 2024, avec un film majeur qui potentiellement a les épaules pour aller chercher beaucoup de choses, quoi. Donc bref, c'est vrai qu'on est dans cette période des cérémonies de prix. On en parle et on en reparle. Bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé d'une deuxième partie, est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Mais plus on en parle et plus on aime. Enfin, en tout
plus
cas, moi,
j'en parle, plus j'aime.
Plus j'ai envie de revoir tout.
Moi, je propose qu'on en parle.
Et de me plonger dans les livres, en fait.
Chaque semaine. On va en parler chaque semaine d'une deuxième partie, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans
le
aucune
podcast
salle.
Officiel et voilà, de Denis Villeneuve.
Jusqu'il ne soit plus dans aucune salle pâtée.
On l'attend, hein, Denis Villeneuve.
Eh bien, Denis, c'est quand il veut. Il est venu à Paris très peu de temps pour la promo de ce deuxième opus. Peut-être que d'ici le prochain, il aura le temps de venir un peu plus longtemps.
Il dit quand même qu'il a besoin un peu de temps avant.
Oui, alors Hans Zimmer
qui
a commencé à composer la bande originale du film. Bon, peut-être calme-toi, Hans. Je pense qu'il a trouvé
qu'il est confiant, lui.
Oui, il est très, très confiant. Il se dit, non, je ne regarderai pas les chiffres box-office. Je sais que tu vas faire 1 milliard. Le premier film qui avait fait 3,3 millions d'entrées en France à suivre pour voir la très belle carrière qui commence déjà extrêmement bien pour ce Dune deuxième partie. Un film donc de Denis Villeneuve qui est sorti chez Pathé la semaine dernière, à découvrir dans nos cinémas en IMAX pour une expérience assez dingue. Encore une fois, film 100% tourné en IMAX, enfin filmé pour IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et en Screenix. Et accessoirement, c'est notre label coup de cœur, n'est-ce pas Gaël?
Bien sûr.
Mais pourquoi je te regarde? Parce que
je sais pas.
Je parle de label.
Ouais.
Et est-ce que ce ne serait pas le moment de parler finalement d'un film qui sort cette semaine, qui n'a absolument aucun rapport avec Dune,
en
deuxième partie. Bah oui, mais alors j'imagine qu'en Allemagne, Dune sort en version allemande.
Oui, mais je veux dire, les Harkonnen, ils ne parlent pas allemand.
Mais qu'est-ce que
je
veux dire? peut-être c'est un biais de lecture, je ne sais pas. En tout
cas,
oui.
Cognitif.
Un biais cognitif, exactement. Si je te parle d'un label, c'est car nous allons parler désormais d'un autre film, La Salle des Profs, un film réalisé par Ilker Satak avec Léonie Benec, Michael Klammer et Raphaël Stakoviak.
Et ça, c'est les noms de leurs personnages ou les noms de...
Je n'en ai...
Alors non, déjà,
moi, j'aurais aimé... certains signes de reconnaissance par rapport à ce que je viens de réussir de
dire. Non, t'as pas vu, j'ai fait genre...
Car il n'y a eu aucun montage. Chaque semaine, il faut se dire qu'il y a 40 minutes qu'on jette parce qu'on n'est pas capable de prononcer les noms de la moitié des gens.
Elles étaient...
Et celle-là, je ne l'ai même pas relue. J'ai lu les noms des gens, je les ai écrits sur mon papier et j'ai tout lu d'un coup. Bref, en tout cas, La Salle des Profs, ça sort cette semaine, c'est notre label L'Autre Regard et on en parle tout de suite. La Salle des Profs, un film allemand donc qui représentera le pays à la prochaine cérémonie des Oscars. Un film dans lequel on va suivre une prof de lycée, si je ne dis pas de bêtises. C'est de collège.
C'est un collège.
Ouais, c'est
collège.
Ce que j'allais dire.
C'est un collège, donc j'ai clairement dit une...
bêtise.
Merci beaucoup. Qui va constater une série de vols dans l'établissement de mauvaises personnes vont être accusées. Enfin bref, tout le monde va se mettre en branle. Les accusations vont partir dans tous les sens. Et c'est un film, grosso modo, où la tension est palpable tout du long. On peut dire ça ?
Ah bah oui. Aidé par un sens de la mise en scène très clinique. Il y a des plans séquences, il y a c'est très froid. Il y a cette musique aussi avec ces trucs de piano, ces touches de piano un peu stridentes, qui rythment, qui sont un peu voilà. Et il y a une espèce de malaise en fait. On sait jamais quels sont les tenants et les aboutissants de cette étrange histoire des vols. Qui les a commis, les soupçons qui se portent sur une collègue, et puis après sur des enfants. Enfin,
puis même tous les mécanismes en fait qui sont mis en place pour potentiellement découvrir un coupable qu'on ne découvrira finalement pas. Mais enfin, c'est pas finalement c'est pas qui a commis le vol, c'est tous les mécanismes qui sont mis en place et comment un piège peut se refermer quand tu fais la mauvaise chose ou dis la mauvaise chose ou est accusé de la mauvaise chose.
Et puis il y a un vrai sujet en ce moment, Pas de vague va sortir le 27 mars prochain avec François Civil, un peu dans le même esprit avec une accusation qui va tomber sur une personne dans un collège aussi, dans ce film-là. Enfin bref, il y a plusieurs films qui abordent cette thématique-là en ce moment en salle. Un film qui sortira le 27 et celui-ci qui est déjà au cinéma. Mais c'est surtout une vision... comment dire, de l'enseignement qui n'est pas très reluisante, qui est même
un peu froid dans le dos,
terrifiante en fait.
Ouais, c'est la manière dont les
profs... Surtout qu'à chaque fois, c'est des petites choses. Enfin, là, en l'occurrence, surtout dans La Salle des Profs, c'est un petit quelque chose.
Je trouve qu'il
va d'un seul coup créer un effet boule de neige terrifiant.
Il y a un truc qui est assez frappant, c'est la solitude des enseignants, de cette enseignante en tout cas. Solitude à la fois face aux élèves, qui parfois lui reprochent des choses, la mettent sous pression, la provoquent.
S'en prend et la moindre forme.
Exactement. Et en même temps, solitude face à l'administration, face à ses collègues, face à... Et je trouve qu'il y a vraiment un sentiment d'abandon quoi, qui est un peu effrayant.
Et je crois que pour nous parler des profs, Gaël, tu avais préparé un petit quelque chose sur les profs au cinéma,
ah bon,
n'est-ce pas ? Je te vois avec ta tablette, donc j'imagine
ma petite tablette.
Mais qui est très utile, et c'est l'heure de la chronique de Gaël.
Est-ce qu'on a un bon jingle ?
Écoute, on va le voir tout de suite. On va l'écouter tout de suite.
Justement, madame, je suis professeur. C'est-à-dire que, hors d'une classe, je ne suis bon à rien.
Je me rends compte que c'est pas mal cette chronique, finalement, parce qu'au fil des épisodes, c'est un peu comme un confessionnal. Et on apprend plein de choses sur cette équipe. Alors forcément, avec un sujet pareil, ça va aller creuser l'intime. Parce que dès qu'on se met à parler des profs, on a tous des souvenirs d'école qui remontent à la surface. Là, par exemple, j'imagine Robin qui prépare son cartable avec sa petite trousse, ses petits crayons, sa gourde de Genpi. Ah non, pardon, Fanta Citron, hein, c'est ça ?
Je vois
Alexis, là, il rigole, mais qui glisse ses petits albums Panini, là, d'Astérix, dans son sac Ispac. Et puis il y a Lisa, là, qui quitte sa chambre en lançant un dernier coup d'œil à son poster de Twilight, et puis qui va se glisser dans sa R5 familiale. Je sais pas si c'était une R5, hein, tu me diras. Celle avec le volant moumoute, là.
C'est ça.
Et avec l'autoradio du papa là, qui balance les meilleures musiques de films.
Exactement ça.
Bon, enfin, je ne sais pas si tu allais à l'école, hein, en fait. Enfin, si tu allais à l'école, si, mais pas, en voiture, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est ça, les films de prof. C'est une madeleine, un fantasme, une virée dans une espèce de DeLorean des années collège. Moi, tout de suite, quand je pense aux profs, j'ai en tête ceux qui ont changé ma vie. Alors, il y a eu Monsieur Olivier. au collège Charlemagne, qui m'a initié au jazz rock et au jazz fusion. Je vous jure que c'est vrai. Et puis, qui m'impressionnait avec ses costumes et ses pompes toujours bien cirées. Et puis, il y a surtout Monsieur Aidan, qui était mon prof d'histoire, Marceau Aidan, à Sophie Germain, en seconde, et qui m'a vraiment fait aimer le cinéma. Il était journaliste dans un fanzine à l'époque, et aussi prof. Et il m'a conseillé de voir l'un des meilleurs films de prof jamais vu, qui s'appelle « L'ombre d'un homme », un film d'Anthony Asquith avec Michael Redgrave que je vous reconseille. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est, enfin, de mes profs en tout cas, mais on est là pour parler des enseignants et du grand écran et de cette histoire qui remonte à, en fait aux années 30, puisqu'on raconte que la première apparition d'un enseignant au cinéma, dans un rôle majeur, c'est Topaz. Le film est signé Louis Gagné et qui faisait l'adaptation d'une pièce de théâtre de Marcel Pagnol. Et surtout, il y avait un Fernandel génial, avec ses petites lunettes cerclées, une moustache fine, dans mon souvenir, qui jouait un professeur compréhensif. Et il avait une géniale scène de dictée, je me souviens, où il disait « Et dans le pré, on voit des moutons, virgule, des moutons !» Parce qu'il y a un S à mouton quand ils sont employés.
Il y a même le droit des imitations.
Mais bien sûr, attends, c'est pas fini. Hein. Depuis 1933, ça ne s'est jamais arrêté. Les profs ont envahi le cinéma, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, parce que le cinéma regorge de profs pas très cool. Il suffit de repenser à ceux qui sont partisans d'une discipline autoritaire, voire injuste, comme dans Zéro de conduite, de Jean Vigo, ou bien à l'enseignant Petite Feuille, dans Les 400 coups, de Truffaut, dont le surnom montrait à quel point il était totalement sourd, littéralement, aux souffrances du jeune Doinel. Pendant des années, le prof, en fait, était réellement décrit comme un soldat de la République, l'arme suprême de l'institution et de l'éducation. Pas de quartier, pas d'empathie, il était là pour transmettre, de gré ou de force. Au fil des décennies, avec les évolutions de la société, l'image du prof dans les films s'est assouplie. Pas forcément pour devenir plus brillante, cela dit, mais en tout cas plus drôle. La nullité du prof est devenue un terrain de jeu et un prétexte à gag dans des comédies. C'est devenu un archétype qu'on pouvait maltraiter, une figure d'autorité qui n'était plus respectée comme avant, mais au contraire moquée. Bon alors là, c'est la liste. Dans les sous-doués de Zidi, par exemple, on découvre une boîte à bac avec un prof d'anglais kakoshi mais à moitié sourd, ou un prof de sport qui ressemble à un Golgoth et se fait assommer par une planche de bois. Il y a évidemment la bande de profs, P-R-O-F-S, avec le prof d'histoire marxiste génial, Bruel qui fait un prof de français fumiste, et surtout cette prof de chimie peau de vache dès le début. Moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Plus près de nous, dans les profs, PEF mettait en scène les pires enseignants possibles, parmi lesquels un pédagogue fumiste, adepte de la fumette déjà, et une prof d'anglais obsessionnelle du découpage, que ce soit les bureaux avec une tronçonneuse ou les cheveux des élèves avec ses ciseaux. Le prof est tellement mauvais dans certaines comédies que n'importe qui peut le remplacer, même un flic comme Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle. On se marre donc, mais certains films ont plus récemment voulu se rapprocher du réel, revenir à la mission principale de l'enseignant et à sa vertu. Et le prof est devenu un sauveur, celui qui maintient le vivre ensemble, l'homme ou la femme pour qui l'enseignement est un sacerdoce total, qui ne compte pas ses heures et qui vit pour ses élèves. Il ou elle met sa vie en jeu. On pense au récent « Comme un fils » avec Vincent Lindon, où il tente de régler les difficultés sociales administratives de ses élèves, comme dans le beau film de Tavernier, ça commence aujourd'hui. Mais dans ce genre, on ne fera jamais mieux que John Keating, le prof de littérature... Oui, je te vois, Lisa. Le prof de littérature du Cercle des Poètes Disparus, incarné par un Robin Williams génial. Lui révélait le potentiel de chacun de ses élèves, il les incitait à penser par eux-mêmes, à devenir libres, et même à monter sur les tables. On a tous rêvé de l'avoir comme prof, Keating. On a tous voulu se retrouver face à un type comme lui dans une salle de classe. Et au fond, c'est sans doute ça, le prof au cinéma. Un pur fantasme, un rêve qui comble nos frustrations, qui réactive nos souvenirs ou qui corrige nos expériences, parfois pas si amusantes que ça. Si on cherche la version la plus réaliste possible, alors on pourra se tourner vers Entre les murs, où Bégodeau et Cantet flirtaient avec le documentaire. Mais je crois que le cinéma cherche plutôt à incarner sous tous ses possibles la beauté de ce métier. Le plus beau métier du monde, comme disait un film de Lozier. Alors pour finir, comme je vois qu'il y a un peu de chahut et que la récré approche, je voulais faire un inventaire à la Prévert avec mes profs préférés de cinéma. Donc dans ma troisième B idéale, il y aurait le prof super séduisant, Lucchini, un télo dans l'arbre Le Maire et la médiathèque, la prof bad girl qui préfère la fumette à la discipline, Cameron Diaz dans Bad Teacher, le prof stylé, Lupin dans Harry Potter, forcément, le prof aventurier, parce qu'il ne faut jamais oublier que Harrison Ford donne des cours de fac dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Comme un peu d'autorité ne peut pas faire de mal, je veux bien être prise en otage par Isabelle Adjani pour étudier Molière, La Journée de la Jupe, et je mettrai forcément le si doux et si compréhensif Monsieur Lopez du documentaire Être et Avoir. Mais tout en haut, au sommet du Panthéon, celui qu'on rêve vraiment d'avoir dans toutes les matières, ben c'est Jack Black dans School of Rock, je pense.
Bravo.
Merci Gaël, bravo pour ce très beau billet. Je m'étais noté deux types de profs. Tu en as mentionné en effet Lupin d'Harry Potter, mais tu n'as pas mentionné Coluche du maître d'école.
Mais oui, le maître d'école. Ah, non,
avec cette magnifique bande originale, bien sûr signée Richard Gottener. Bref,
ça fait ressurgir plein de moments de cinéma en fait. Moi j'ai pensé à Alf Nelson, bizarrement.
Ah oui,
quand
c'est vrai, mais bien
quand
sûr.
Quand tu
bien
cites
sûr.
Cameron Diaz, bien la sûr. Fumette, tout ça, enfin bon.
En tout cas,
pas une
un
comédie,
billet
mais...
rempli d'imitations et de petites pics personnelles. Et c'est
non, mais
ça.
On aurait dit qu'il était avec moi en cinquième là, ouais, parce c'est que ça, c'est à peu près ça.
Elle a revécu son adolescence. Merci beaucoup, Gaël. Vous, il y a des profs qui vous ont parlé cinéma, qui vous ont un peu donné envie.
Oui, carrément.
Prof d'anglais, moi.
Prof d'anglais aussi.
Qui nous montrait les films, qui nous montrait Pierre des Caraïbes.
Oh
c'est
donc
ça vient de là,
ça vient de là. On partage cette passion.
Et plein d'autres films. The Rocky Horror Picture Show. Enfin, vraiment des choses à essayer de nous montrer.
En CP, quoi.
En CP, bien sûr. À nous montrer des styles différents de cinéma.
Cannibal Holocaust.
La bonne ambiance. Et toi, Lisa ?
Moi, c'était mon prof d'anglais aussi qui avait créé un petit ciné-club, en fait, au lycée. Et c'est lui qui m'a montré le premier film de Nolan, Following, par exemple.
Ah oui.
Tu vois, à l'époque, j'en avais pas du tout entendu parler. On avait fait aussi une rétrospective sur les voyages dans le temps, mais pas du tout à la Retour vers le futur. C'était plutôt quelque part dans le temps,
ouais,
c'est ça
part dans le temps,
ça,
ouais.
C'était vachement bien. L'armée des douze singes, enfin, c'était vraiment... Et ouais, il me donnait des DVD, on s'échangeait des DVD et on faisait des jeux de qui connaît qui, tu sais, avec les sept relations. Donc voilà, non, super prof d'anglais et super prof de cinéma, finalement.
Et moi, en CM1, moi, j'avais mon prof, principal, le prof de CM1, qui m'avait passé le DVD du Mécano de la Générale, de Buster Keaton, parce que je sais pas, je devais parler déjà de cinéma, ou je crois que j'étais un peu le blagueur de service, il avait dû se dire, tiens, au moins ça sera en silence, Buster Keaton. Et Buster Keaton, je me souviens vraiment de ce moment de prendre le DVD, de le regarder chez moi, et ce truc de le rapporter, d'avoir adoré le film forcément, et de lui rapporter ce DVD. Et puis sinon, au souvenir au collège, d'un espèce de programme, le collège au cinéma, que notre prof d'anglais aussi avait mis en place, et on était allé voir Un jour sans fin, tous ensemble au cinéma, et on était allé. Mais c'était une époque où les plateformes n'existaient pas. Enfin, c'était pas un film qui passait beaucoup en télé. Donc, c'est un film que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et c'était une super découverte. Et je pense que ça a ouvert. Et on avait vu Monty Python, Sacré Graal aussi.
Pareil, il m'a montré. C'est lui qui m'a introduit au Monty Python.
Et
aussi,
ça, au cinéma, c'est surtout à cet âge-là, au collège, c'est quand même assez impressionnant. Bref, merci Gaël pour ce joli billet. C'est très beau souvenir de cinéma. La salle des profs, alors, c'est un peu moins réjouissant. Oui. Mais en tout cas, c'est une super proposition de cinéma que tu as découvert cette semaine dans les cinémas Pathé. Donc, également au programme, en plus de Dune, bien sûr, qui est à redécouvrir, et qui est à découvrir tout simplement, ou redécouvrir pour ceux qui se sont fait spoiler, donc par définition, ont probablement déjà vu le film, ou alors bon, chacun fait ce qu'il veut. Trois autres films, à savoir 14 jours pour aller mieux, la comédie avec Maxime Gasteuil, Boléro, le film sur Ravel, un petit mot sur Boléro.
Sur le Boléro.
Sur le Boléro, mais bon, par définition, Ravel un petit peu.
Oui, non, tout à fait, sur Ravel et sur la manière dont en fait il a écrit cette œuvre absolument géniale, quoi. Raphaël Personnaz qui est vraiment qui incarne bon, ça vraiment avec brio.
Et Imaginary, un petit mot, Robin, tu l'as vu?
Ouais, Imaginary, film d'horreur du studio Blumhouse, donc qui commence à se faire un sacré nom dans le genre depuis quelques années. Voilà. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment eu un avant et un après là depuis 2 ans où on sent vraiment que le studio est reconnu maintenant pour sa capacité à justement proposer de l'horreur sous différentes formes. Et donc Imaginary qui s'intéresse aux amis imaginaires qu'ont les enfants ou qu'on avait tous enfants, je ne sais pas. Et avec une façon de faire qui tourne vers l'horreur quand on réalise qu'un enfant a un ami imaginaire qui n'est peut-être pas si bienveillant et gentil que ça. Voilà, donc le film part dans plein de pistes que je trouve assez réussi et totalement assumé. Et c'est intéressant à voir. Et ça suit bien après Megan et Five Nights at Freddy's avec cette idée de prendre un peu des emblèmes de l'enfance ou de l'adolescence et de les transformer en quelque chose de plus inquiétant. Voilà.
Imaginary, 14 jours pour aller mieux, Boléro, la salle des profs, tout ça c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Revenons sur les bonnes raisons d'aller voir la salle des profs au cinéma. Quelles sont-elles pour toi, Gaël? Quelle est la première? Quelle est pour toi la bonne raison d'aller découvrir?
La mise en scène.
Dis-nous en plus.
Non, la mise en scène clinique avec cette l'installation d'une tension en fait où tout peut dérailler à tout moment et on saura jamais d'où ça vient.
Lisa?
Je pense que ça rejoint la mise en scène, mais plus l'aspect huis clos, finalement, parce que tout se déroule finalement entre les murs de cette école. Tu sors peut-être un quart de seconde de cet endroit-là. Donc ouais, le huis clos.
Et moi, j'ajouterais pour ce personnage principal, ce personnage de Carla Novak, interprété par Léonie Benec, qui, je trouve, est vraiment intéressante dans la mesure où on ne comprend pas forcément tous ses choix. On s'identifie rarement en fait, à ce qu'elle décide de faire. Non pas qu'elle prenne uniquement que des mauvaises décisions, parce que chacun prendrait les décisions qu'elle a à prendre en face à un problème comme celui-ci. Mais je trouve que c'est intéressant de suivre son personnage et les choix qu'elle va faire, et surtout les retombées et comment telle décision va en impacter une autre, etc. Tout ça dans le microcosme, en effet, comme tu le disais, Lisa, d'un collège et d'un huis clos. Et Robin ?
Je pense que ça va un peu dans l'idée de la mise en scène, mais le rythme. Je trouve que le film, dès le début, en fait, lance son postulat et surtout son twist, son premier twist, et ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de garder la même intensité dans le rythme et dans le montage.
Tous ces films sont donc à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés, d'une deuxième partie, dans toutes les technologies, tous les formats possibles, imaginables, chez Pâté, en IMAX, bien sûr, en Dolby Cinéma, en KDX, en Screenix. Un petit mot aussi sur un rendez-vous qui arrive vite, c'est la séance Ciné-Hit Iron Man qui arrive le jeudi 14 mars. Donc vous pouvez déjà réserver vos places pour découvrir ce premier film de l'univers cinématographique Marvel sur très grand écran. Nous avons fini cet épisode spoiler sur Dune, deuxième partie, et sur la salle des profs. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table. Merci Lisa.
Merci beaucoup.
Merci Gaël.
Merci.
Et merci Robin.
Merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour parler de Dune, ou peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, promis, on va peut-être se calmer la semaine prochaine, quitte à revenir peut-être de plus belle encore après, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, vous trois. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. We'll be right back.